lige det her af. Le point de vue de la contemplation de la pensée. Intelligere. Mais que l'aristotélisme a été récupéré. réfléchi, de voir qu'il y a un parallélisme constant entre le développement de la philosophie dans l'Inde et le développement dans la philosophie européenne. Il y a ces deux grands courants. Alors comment caractériser l'aristotélisme et le platonisme? Parce que il faut choisir. Je crois qu'il faut choisir. On est tous un peu platonisant et souvent aristotélisant aussi. Alors, quelle différence entre les deux? Platon succéder, je ne dis pas Socrate a engendré Platon, philosophiquement parlant, et Platon a engendré Aristote, philosophiquement parlant, non. Ils se sont succédés, tous les trois, de manière très étonnante, à la fois avec une continuité et une opposition. Et on pourrait dire que, avec Socrate, Platon et Aristote, on trouve les trois aspects essentiels de toute pensée philosophique. C'est très étonnant, ça. Et c'est intéressant à noter. Socrate, qui n'a rien écrit, Socrate n'a rien écrit, et Socrate nous le connaissons selon des écrits divers. Pour Aristophane, Socrate est un sophiste. On a le Socrate sophiste et on le critique dans les nuées. Aristophane attaque Socrate comme un sophiste. On a ensuite un Socrate qui serait à l'armée capitaine. Alors on dit Socrate se purifie des sophistes par l'armée en devenant capitaine. Xénophon nous montre ça. Et puis on a Socrate, maître de Platon. Alors c'est très possible. Ce sont des thèses qui sont soutenues, comme il n'a rien écrit. Socrate. C'est très curieux de voir ces trois Socrates et de voir que ces trois Socrates sont sans doute la même personne. Il y a beaucoup de chance. Un Socrate, d'abord sophiste. Il est contemporain des sophistes. Et c'est très possible que Socrate a été d'abord un sophiste. Alors Aristophane le critique. Puis nous avons un Socrate qui se purifie des sophistes par l'armée. contredis-toi toi-même. Et Socrate, à ce point de vue-là, est vraiment quelqu'un qui a éduqué la Grèce. Il est mort, vous savez bien, en prenant la ciguë. C'est-à-dire qu'il est mort parce que on lui a obligé de prendre la ciguë. C'est pas un suicide. On l'a obligé de prendre pour respecter les lois et pour montrer qu'il était fidèle aux lois. La mort de Socrate reste pour la philosophie grecque quelque chose de très très grand et de très noble. C'est pour ça que certains ont écrit Socrate, Jésus, ont fait un parallèle. J'aime pas beaucoup, mais je comprends. C'est que l'un et l'autre sont des éducateurs, des jeunes, des disciples. Mais vous comprenez, c'est pas tout à fait au même niveau. Socrate cherche la vérité. Jésus aussi cherche la vérité. Mais Socrate cherche une vérité que l'homme est capable de connaître. Jésus, lui, vient nous révéler une vérité bien plus grande, que Dieu est vérité et qu'il est le Fils bien-aimé du Père et nous introduit dans le mystère même de Dieu. Mais c'est évident, il y a cette similitude, c'est que Socrate et Jésus ont été des éducateurs. Jésus a éduqué ses disciples. Socrate a éduqué ses disciples, et ni l'un ni l'autre n'ont écrit. Ils voulaient simplement éduquer des jeunes qui les suivaient. Donc il y a des ressemblances, c'est sûr, c'est pas pour rien qu'on peut faire ce parallèle, il y a quelque chose, mais il faut respecter toute la différence. Socrate reste toujours quelqu'un de très mystérieux, de très caché, n'a rien écrit. Il a écrit dans le cœur de ses disciples. Et le disciple le plus remarquable de Socrate, c'est Platon. Vieille famille grecque. Platon, un aristocrate, les aristoi, comme on les appelait, les vieilles familles d'Athènes, qui s'adonnait à la politique du reste. Socrate a permis à Platon de ne plus faire momentanément carrière politique. Il avait deux oncles qui étaient dans la politique et qui l'attiraient. Et Platon a été attiré par Socrate quitter la politique et chercher une connaissance philosophique. Et pendant 9 ans, il a été disciple de Socrate. Puis, Socrate mourant, le premier Platon, c'est le disciple de Socrate. Les premiers dialogues de Platon sont des dialogues socratiques. Où on vous dit bien qu'il est le disciple. Et l'apologète de Socrate, l'apologie de Socrate. Puis Platon a pris conscience de ce que c'était que la philosophie. Et il a sûrement dépassé son maître d'une façon qui n'était peut-être pas dans la ligne de son maître, au dire d'Aristote. Et Platon est un grand philosophe, un des plus grands. Pour certains, c'est le plus grand. très grand chez Platon. Seul inconvénient, c'est que je crois qu'on peut dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est très très grand. C'est très beau. Les dialogues de Platon, ils sont très très beaux. C'est Anne. Quelqu'un qui cherche à retrouver ce jeune Aristote à l'école de Platon et le critiquant. Et Platon aimait ce jeune Aristote. Il a dit sensible sa critique. Et sous l'influence de ce jeune Aristote, Platon se critique. Il se critique d'une façon très nette et redécouvrit et redécouvre d'une certaine manière l'importance de l'expérience. Les dernières œuvres de Platon, l'expérience réapparaît, alors que dans les premières œuvres de Platon, c'est la réminiscence. Ce monde. La réminiscence me y voit trop bien les dégâts de celui qui échappe. Platon était un séducteur extraordinaire. Ça, ce n'est pas pour rien. Mon âme était contemporaine. commencé, voyez, le renouveau philosophique en Grèce a commencé par cette conscience morale. C'est intéressant, du reste, de bien le voir. Une recherche de vérité pratique, puis une recherche de vérité très spéculative à la Platon. communauté humaine, la communauté politique. Ça, c'est le triangle de base, très important. Et à partir de là, puisqu'on cherche la vérité, on va être obligé de dépasser l'anthropologie pour découvrir la vérité pour elle-même à partir de la philosophie de l'art. On va découvrir la philosophie de la matière ou la philosophie de la nature. C'est comme ça qu'Aristote l'appelle. Et on comprend pourquoi. Parce que l'activité artistique implique toujours une matière sur laquelle je travaille. Donc, antérieurement à l'activité artistique, il y a quelque chose à connaître, la nature du monde. Connaître ce qu'est ce monde physique, ce monde du mouvement, qui est mu. L'ami, il peut mourir. Et il meurt à cause de quoi? C'est que, au-delà de l'amitié, et plus profondément que l'amitié, il y a la vie. Pas seulement mon ami, il est un être vivant. Et donc il y aura toujours en lui quelque chose que je n'arriverai pas à comprendre totalement. Chaque vivant a une autonomie. Tant qu'il se meut, il n'est pas mon ami. Et il peut mourir. Et donc, en tant qu'il meurt, il n'est pas mon ami. Puisque s'il était mon ami, il mourrait en même temps que moi. Je ne veux pas être source de souffrance pour mon ami. C'est pas amical, ça. On retrouve ça aujourd'hui, vous savez, sur l'euthanasie. Il faut mourir ensemble pour pas faire souffrir mon ami. Mais le petit film, vous savez, qui fait l'éloge de l'euthanasie, montre ça. Un bon couple, bien âgé, qui a vécu ensemble, qui se regarde et dit oh, moi, je peux pas mourir sans toi. C'est impossible. Donc, il y a une possibilité de mourir ensemble. Mourons ensemble. Je rappelle le plaidoyer. Et puis alors, ensuite, au-delà de tout le bien politique, il y a la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique, philosophie de ce qui est, en tant qu'il est. Voilà les trois parties de la philosophie spéculative, c'est-à-dire spéculative, regarde mon ami, je dis l'homme. Quand je regarde une communauté, je dis l'homme. Et quand je regarde le monde physique, les astres, la mer, je dis Dieu. Je dis quelqu'un qui est au-dessus de moi. Il y a quelque chose de jésuite. Son activité, l'homme qui transforme le monde, l'homme qui découvre l'homme, l'homme qui coopère avec l'homme. Tandis qu'au contraire, dans les trois parties de la philosophie spéculative, c'est ce qui est avant l'homme. Ce n'est pas moi qui ai créé l'univers. L'univers m'a attendu. Patience de m'attendre. Il m'a reçu. J'étais reçu dans un petit berceau. C'était l'univers qui me recevait. L'univers m'a reçu. Il était avant moi. Le monde du vivant dont je suis, c'est mon monde. C'est vrai. Je suis l'animal. Je suis le point de vue de la vie. Je ne suis pas celui qui m'a fait. Ma vie est un don. Je voudrais quelquefois pouvoir l'augmenter comme je veux. Cosmos, c'est-à-dire cet univers dans toute sa beauté, et le petit cosmos, qui est l'homme, l'homme vivant. Et puis, dernière partie, l'être qui unit le vivant et le devenir. source de l'homme. Être premier. Et ces sept parties impliquent une critique qui est une réflexion sur ces sept parties pour montrer leur unité. Ces sept parties de la philosophie sont une. Une idée dans la critique, une idée dans la logique. La logique et la critique se tiennent comme une partie réflexive de la philosophie. Je crois que c'est important d'avoir toujours devant soi ces différents avenues philosophiques. Parce que la philosophie est une, mais implique beaucoup de demeures. Vous voyez, si je les compte, ces demeures, je suis obligé de dire qu'il y a sept parties plus critique et logique. Ça fait huit. Et ça fait neuf. Quand je fais de la philosophie, je joue toujours sur ces neuf parties qui toutes se tiennent dans l'unité, dans la diversité. C'est du reste très beau, ça. C'est ça la philosophie réaliste. C'est pas une vision univoque. C'est une vision analogique, c'est-à-dire dans la diversité et l'unité. Et donc, voyez tout de suite, j'ai, si je le veux bien, j'ai neuf regards sur l'homme. Neuf regards sur l'homme, au plan philosophique. Je regarde l'homme comme un artiste, comme un ami, comme celui qui coopère avec moi, comme l'homme lié par mon corps à l'univers, comme l'homme vivant, comme l'homme qui est un être qui cherche son origine, le Créateur. Et je découvre à ce moment-là le Créateur. Tout cela, je réfléchis et j'en fais la critique. L'homme est capable de se critiquer. C'est excellent, ça. Il est capable de se critiquer. Il n'aime pas beaucoup d'être critiqué par les autres. Vous savez bien, une épouse qui critique son époux, c'est pas très agréable pour lui. Mais une épouse suffisamment adroite arrivera à faire que l'époux se critique lui-même. Et c'est ça toute l'astuce. Alors, il y a la réflexion critique. Et puis, l'homme est un animal logique. Il aime la logique. Il aime que les choses soient bien arrangées dans des beaux tiroirs. Il y a un nombre de tiroirs importants dans la critique, dans la logique. C'est très curieux de voir qu'au plan philosophique, j'ai neuf regards sur ma personne humaine. Neuf regards sur ma personne humaine. Vous voyez, c'est complexe. Et qu'est-ce que nous allons essayer ensemble de voir? C'est le comme c'est moi. J'en peux rien, mais c'est comme ça. Et chacun d'entre nous pour dire que c'est ça. C'est pour ça que notre laboratoire philosophique, nous le portons toujours avec nous. Je peux faire tout le temps de la philosophie. Puisque je suis toujours avec moi. Et donc, si je réfléchis, je réfléchis forcément sur ces 9 dimensions. Ça, c'est extraordinaire. De l'intérieur.